Voilà, donc je m'appelle Hervé Guillois, il a dit. Je vais dire quand même un petit peu. Mon épouse s'appelle Chantal. Ah, Chantal, allez là-bas. Ah, Chantal des Chanteaux, deux Chanteaux. En tout cas, Chantal. Et j'ai quatre enfants, deux filles, deux garçons. J'ai quatre petits-enfants. Le dernier, il a 5 mois. La dernière, pardon, c'est une fille. 3 garçons et une fille. Voilà. Et j'habite donc la plus belle ville au monde. Après Nîmes, et la corrida. Non. C'est joli aussi, hein. J'ai fait une petite visite cet après-midi, c'est très beau. Et en fait, c'est vrai que c'est une ville touristique, en fait, à part le tourisme et les vignes, nous n'avons que ça chez nous, et c'est beaucoup déjà, mais ça attire tellement de monde. Voilà, et on a cette fête de la musique, enfin, pendant tout l'été, où il y a des tas de concerts gratuits dans les rues avec des grands chanteurs et musiciens. Si ça vous intéresse, il faut venir voir. Puis il y en a aussi dans la cité payant, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, des gospels aussi, des gens qui viennent et qui sont chrétiens, hein, qui sont dans les gens qui vont faire des spectacles aussi. Voilà, alors c'est une belle ville. Bon, moi j'y suis plus très souvent. En fait, c'est mes origines, mais je suis pas né à Carcassonne. On voit l'accent, je suis né dans le nord de la France, en Picardie, à Amiens, là où il y avait Valérie, vous avez connu, Anglaise. Moi, je connaissais Valérie de France, son prénom de jeune fille. En fait, elle était élève au conservatoire de musique, et moi, j'étais régisseur au conservatoire de musique. Donc c'est elle qui m'a amené à Jésus-Christ, vous voyez. Hein. Elle était très jeune et puis elle a osé faire des défis et c'était super. Et puis, donc, mes origines sont du sud quand même, puisque ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, ma grand-mère donc, était de Port-la-Nouvelle. Donc voilà, mes origines sont là, c'est-à-dire à côté de Narbonne et Carcassonne, pas très loin, au bord de la Méditerranée. Alors je vais prendre l'accent après, méditerranéen. On a tous les mélanges. Comme je voyage beaucoup, je ne sais plus où je suis. En tout cas, je suis de la Jérusalem céleste, certainement là-haut, du royaume de Dieu. Ça, je sais, mon identité est là-haut, mais bon, voilà. En tout cas, on parle cette langue-là tous. Je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays, beaucoup de nations. Et j'ai fait, alors je vais citer, j'ai déjà dit aux responsables, mais je vais un peu vous citer pour que vous puissiez savoir. J'ai fait l'Afrique noire, donc le Sénégal, le Mali, le Burundi, le Rwanda. Après Madagascar, plus bas, j'ai fait l'île Maurice aussi. Et puis après, je remonte un peu plus haut. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Je suis allé au Liban aussi. Je suis allé en Israël. Et après, j'ai fait aussi l'Écosse. J'y vais régulièrement aussi. Ça, c'est les pays anglophones. Il fait froid par là. J'aime beaucoup la chaleur, moi. Il a vu, même dans l'après-midi, il faisait chaud, j'avais encore la veste. J'aime tellement la chaleur. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi le Canada, puis froid par là aussi. Et puis, je l'ai vu là-bas quand il y avait de la glace sur le lac. C'est terrible, ça. On peut marcher dessus, on peut rouler en camion sur les rues. C'est incroyable. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait comme autre pays? J'ai fait aussi l'Italie, la Belgique, donc la France, la Suisse. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, j'en oublie certainement. Et partout, je disais encore ce matin, c'est ma joie, c'est de voir qu'il y a aussi le même esprit. Je vais dans différents endroits où des gens d'autres nationalités, mais il y a le même esprit. C'est pour ça que je dis le même langage. En fait, je connais déjà le ciel sur la terre. Parce que là-haut, on sera comme ça. Il y en a qui demandent comment ça va être. Et bien voilà, on le vit déjà sur la terre. On peut le vivre. Hein. Déjà tout à l'heure dans la louange, on pouvait déjà toucher les choses du ciel. Et Dieu veut qu'on vive le ciel. Donc avec tous ces gens de toutes couleurs, toutes nationalités, ben voilà, on sera tous là-haut en même temps. Et quand je vais dans ces endroits, bien voilà, on voit que les gens sont en train de rechercher pour vivre la présence de Dieu. Ils cherchent même dans ces pays arabes où Dieu agit. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul dans son petit coin, Nîmes ou Carcassonne. Puis on ne voit pas ailleurs, il y a des gens qui ne sortent pas tellement de ces lieux. Et puis on voit tous nos bibis, tous nos bobos. Mais si on ouvre les yeux, qu'on regarde qu'est-ce que Dieu fait au-delà, on se dit, mais Dieu est en train d'agir. Et je disais, j'ai jamais vu autant de conversions que ce que je vois actuellement. Mais des conversions tellement spectaculaires, avant il nous fallait du temps. pour grandir. Maintenant, les gens ils sont touchés par Dieu, puis tout de suite, Dieu se sert d'eux. Et là, je trouve ça extraordinaire. Ils ont compris quelque chose du royaume de Dieu. En fait, on a bien communiqué quand même. Hein? Non, le Saint-Esprit a touché leur cœur et on voit des guérisons spectaculaires, des miracles, des choses formidables. J'en raconterai certainement quelques-unes. Et on voit comment Dieu peut agir sur cette terre partout. Et puis, je parle aucune autre langue que le français et je le parle très mal. Ceux qui parlent très bien français vont trouver des erreurs de français dans mes conversations. Voilà, mais vous inquiétez pas, je suis quand même français, voilà, de Carcassonne, quoi, là-bas dessous, et voilà, en tout cas, je suis heureux d'être avec vous, heureux de partager avec vous aussi. Dieu m'a donné un ministère donc prophétique, et ça, c'est vrai que c'est assez spécial, on ne connaît pas partout, mais avec ce ministère, je disais ce matin, on voyage et je vais dans des églises charismatiques et non charismatiques. Ça peut paraître fou, ça, de dire, mais est-ce que Dieu peut agir chez les non-charismatiques? Et oui, il y a un réveil qui est en train de se faire au milieu des non-charismatiques. Des adventistes que je suis allé, des réformés et de beaucoup de gens qui m'invitent. Pourquoi? Parce que Dieu leur parle et ils ont envie de progresser. Et je dis, ces gens vont nous dépasser, nous les charismatiques, et ils ont la connaissance de la parole, plus la puissance de l'esprit. Bon, alors là, je crois que c'est la dernière génération où on va vivre des choses très très fortes. Il nous faut nous accrocher, nous, les pentecôtisants, hein, entre guillemets. Je crois que Dieu veut qu'on aille bien plus loin avec lui. Voilà, ça c'est comme ça, vous me connaissez plus. Je suis un homme tout à fait ordinaire. Si vous voulez savoir des défauts, vous demandez à ma femme, elle va vous en dire pas mal. Voilà, c'est nos femmes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Hein. Comment? Oui, voilà, elle dit, non, je ne veux pas te disqualifier. Non, elle ne fait pas ça, elle n'aime pas voyager. Mais elle aime bien rester à la maison. Voilà, mais non, en fait, c'est vrai. Je crois que Dieu se sert de gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et ça, pour moi, c'est ce qui est important. On n'a aucun mérite dans ce que nous avons. Ça lui appartient. Il a bien voulu nous donner quelque chose, mais après, il faut lui rendre, parce que c'est à lui que ça appartient. Une fois qu'on est mort, c'est fini, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est nos cœurs. Et c'est ça que Dieu veut. Et garder un cœur d'enfant. Et je crois que c'est un peu le secret de ce que Dieu veut. Avoir un cœur d'enfant. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit, tu es toujours comme un enfant. Mais je dis, je voudrais y rester toute ma vie, moi, un enfant. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et je crois que Dieu est tellement simple, et nous, on est tellement compliqués. Et c'est tellement simple, la vie avec Dieu. Et tellement facile. Bien sûr qu'il y a du combat. Mais je crois qu'on grandit avec ce combat. Vous savez, s'il n'y avait pas les épreuves, je crois qu'on ne grandirait pas. On a besoin de ça. Voilà, vous me connaissez plus. Alors c'est vrai que Dieu me donne des paroles pour des pays, des nations, pour des personnes individuelles. Alors si vous le permettez, tout à l'heure je donnerai quelques paroles. Si vous ne désirez pas avoir de paroles, vous me le dites. Ça est déjà arrivé, hein, moi, des gens qui m'ont dit « je ne veux pas de paroles ». Alors même si Dieu a envie, s'ils n'ont pas envie, Dieu respecte. Alors je dois respecter la vie de chacun, puis je laisse. Par contre, il ne faudra pas venir me voir tout seul après. Parce que sinon, moi, j'appelle le responsable et puis ou les anciens, puis ils viendront avec moi. Parce que moi, je ne ferai pas des choses derrière. D'accord? C'est important de le dire directement. Toutes les paroles que je donnerai, elles seront enregistrées là-bas, le technicien supérieur. Voilà. Et c'est pas toi, si. Mais il va y arriver, appuyer sur les boutons. Et puis, donc, ils seront enregistrés, vous les écouterez, elles sont soumises aux autorités locales. En fait, je disais, j'aime dire cela. Un ministère prophétique, quand il vient dans une église, il n'est pas fait pour diriger l'église, mais il est fait pour apporter son ministère, pour aider l'église à rentrer dans ce que Dieu veut. Donc c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors je ne me sens pas... Ceux qui dirigent l'église, c'est vos responsables, les anciens. Donc moi je suis soumis à eux. Je ne suis pas venu en conquérant. Ça c'est important que vous le sachiez. Et puis toute parole leur est soumise, ça veut dire qu'ils ont le droit... avec vous, de prier dessus, de venir vous retrouver et de pouvoir parler sur ce qui sera dit. C'est important parce que j'ai entendu des fois des pasteurs me dire « Ah là là, mais on l'a répété 10 fois la personne, et puis toi tu le dis une fois et puis ça marche. » Mais ça aide beaucoup les responsables parce que comme ça après ils peuvent aller pour aider chacun. Donc c'est important. Le ministère est très important. Je valorise un peu mon ministère quand même. Voilà. Je fais partie d'une équipe apostolique, donc destinée, il a dit, il a très bien dit, et au travers de cela, ça veut dire que je ne suis pas un satellite tout seul, hein, comment on appelle ça, hein, voilà, électron libre, voilà, c'est ça. Et, mais je suis juste quelqu'un qui est soumis à des autorités, mais ça me fait que je voyage des fois seul, mais je retrouve toujours mon équipe, et des fois je suis avec d'autres ministères aussi apostoliques, et Dieu se sert comme dans la Bible, hein, on n'est pas figé, mais j'ai quand même une équipe officielle, d'accord ? Voilà, que vous connaissez un petit peu, en tout cas toi Joël, je crois. Voilà. Je voudrais qu'on lise quelque chose, c'est dans Éphésiens chapitre 5, des versets 15 à 21, mais on va lire le verset 18 seulement. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais pour quelqu'un qui a un pays du vin, c'est très bon le vin aussi pour l'estomac, hein. Le tanin est très bon. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire, voilà, remplis de l'esprit. Donc je vais vous poser des questions. Je crois qu'on a trois manières de vivre en tant que chrétien et je vais vous demander des questions. On a le choix entre trois manières de vivre. La première consiste à faire notre volonté par notre force. Comment on peut appeler ça? Il y a des chrétiens qui font ça, faire leur volonté par leur propre force. Comment on appelle ça? Question pour un champion. Non. Propre juste, dites, on peut se tromper. Hein. C'est pas grave, il n'y aura pas d'examen. Faire notre volonté par notre force. Vous donnez votre langue. On appelle ça de l'humanisme. Faire notre volonté par notre force. Ça veut dire, c'est en l'homme que l'on croit. Il y a des chrétiens qui croient en l'homme. On parlait de ça tout à l'heure, de certaines personnes. C'est des purs humanismes. D'accord ? Après, la deuxième chose, on peut aussi, une autre manière de vivre, faire notre volonté par la puissance de Christ. Comment on peut appeler ça ? Faire notre volonté par la puissance de Christ. Ah, c'est des questions ardues, n'est-ce pas ? Mais ça veut dire beaucoup de choses. Comment ? Faire la volonté de Dieu. Qui dit ? Bon. Oui, c'était clair. Il faut lire, il faut écouter là. Oui. Faire notre volonté par la puissance de Christ. Hein ? Et pas d'idée. Comment ? Là ? Exactement. C'est la religion. La religion, et il y a beaucoup de chrétiens religieux, c'est-à-dire qu'ils font leur propre volonté, puis ils mettent au nom de Jésus. Mais c'est toujours leur volonté, même pour diriger une église. Combien d'églises sont dirigées par la propre volonté de la personne, mais on met le mot Jésus dedans ? C'est-à-dire qu'on est des chrétiens quand même. Mais c'est notre volonté. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de remuer sur cette terre actuellement. Beaucoup d'églises qui sont travaillées parce que Dieu remet de l'ordre. Et c'est lui qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et des fois, c'est nous qui sommes Dieu à lui. Mais on met Jésus dedans. Et la troisième manière, c'est de faire la volonté de Christ par la puissance de Christ. Vous voyez dans les mots, faire la volonté de Christ par la puissance de Christ. Comment vous pouvez appeler cela ? Faire la volonté de Christ par la puissance de Christ. La sagesse. Après. C'est la vie abondante. Dieu veut qu'on ait une vie abondante. Et pour avoir une vie abondante, il faut faire la volonté de Christ par la puissance de Christ. Et non pas par notre force. Et ça, c'est la vie abondante. Il est dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. C'est une vie abondante qui doit jaillir de nous partout où nous sommes. Dieu veut nous apprendre. Et Paul nous exhorte en cinq mots, au travers de ça, soyez remplis de l'Esprit. Et ça, c'est le secret de la puissance spirituelle que Dieu a mis en nous. C'est un grand secret. Et en regardant le temps du verbe, c'est pour ceux qui ont fait du grec, c'est le monsieur qui est derrière les ordinateurs, le grec, l'impératif présent continu, ça veut dire « laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit ». En fait, la traduction, c'est « laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit ». Ça ne veut pas dire que c'est à un moment donné le dimanche, mais c'est tous les jours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui coule et qui te régénère tous les jours. Laissez-vous, et en plus il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplir. Ça veut dire qu'on peut empêcher cela. C'est-à-dire qu'on peut en prendre la direction, on peut faire une autre façon, comme je l'ai dit. Mais Dieu veut que ça soit son esprit qui agisse au travers de nous. Et vous voyez que c'est très important de le laisser agir. Et tout le long du Nouveau Testament, on parle beaucoup de cette puissance, de cette plénitude de l'esprit. Au début, au moment de la conversion, puis après, c'est comme un manteau qui nous est mis d'onction pour agir, se défendre, combattre contre les pressions spirituelles, aussi pour pouvoir prier pour les malades, les voir guéris et tout ça. C'est une onction nouvelle. Et ça, c'est la puissance de l'esprit qui est en nous, mais qui n'est pas pour un moment donné, dans un cadre donné, mais ça doit continuellement couler de nous. Dieu veut nous utiliser. On est, on dit, le sel de la terre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on n'a pas le goût, à quoi ça sert? Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on vive cette puissance de l'esprit. Dieu veut que l'on rentre dans cette vie abondante pour manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Il faut que le royaume de Dieu avance. Et pour que le royaume de Dieu avance, il faut le manifester. Par notre comportement, dans notre travail quotidien, dans notre entreprise, Dieu veut manifester sa puissance. Il veut que son royaume pénètre toutes les couches de la société. Il veut qu'on reprenne tout notre héritage, tout ce qui a été volé par Satan. Et je crois que si chaque chrétien réalisait la puissance qu'il a en lui, c'est bien plus grand que la bombe atomique. Si on réalisait ça, et quand on connaît la bombe atomique, on sait que c'est très fort, les atomes, les choses qui sont très puissantes, on fait l'électricité avec l'énergie, avec, eh bien, en nous, la puissance que Dieu a mis est bien plus grande. On pourrait dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle s'y jette. Il y en a qui avaient tellement la foi qu'il n'y a plus de montagne ici à Nîmes. Non, je blague. Mais en fait, Dieu veut nous apprendre à avoir cette foi comme un petit grain de CNV qui est suffisant pour déplacer les situations et changer les situations autour de nous. Donc on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir collaborer avec lui. Et ça, c'est sa volonté. Il veut qu'on travaille avec lui tout le temps. Il est le Seigneur le plus grand bavard. Vous saviez ça? C'est-à-dire qu'il parle continuellement. Ça veut dire qu'il a toujours quelque chose à nous dire sur toute chose. Mais nous, nous ne sommes pas disposés à écouter tout le temps ce qu'il dit. Parce qu'on est préoccupé par nos problèmes ou nos situations ou les circonstances, les endroits où nous nous trouvons. On dit, c'est pas possible qu'à mon travail, je puisse. Si, au conservatoire, j'ai vécu des choses extraordinaires. Parce que l'Esprit était en moi. Et si l'Esprit est en moi, partout où je suis, l'Esprit de Dieu, il y est. Donc on peut manifester et travailler avec lui et voir sa puissance se manifester autour de nous. Dans 2 Corinthiens 13:13, c'est facile à retenir, hein, 2 Corinthiens 13:13, pour ceux qui veulent noter, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme une formule de politesse, hein, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est Paul qui parlait là. Et même les formules de politesse ont une telle importance pour nous. Chaque mot, chaque virgule dans la parole est tellement importante. Vous l'avez? Voilà. Elle rit parce qu'elle a droit de l'avoir écrit à côté. Voilà. Je crois que Dieu veut que nous communiquions avec son esprit tout le temps. Quand il est parlé, la communion ou la communication avec le Saint-Esprit. Quand on regarde aujourd'hui à notre époque, si, admettons, on coupe tous les téléphones portables, plus rien, plus de véhicules, plus de camions, plus d'essence, donc on supprime, on se retrouve dans notre petit coin, on ne peut plus bouger, je crois qu'on est perdu, hein. On a besoin de communiquer. Il nous faut communiquer. L'être humain, il est fait comme ça. Même tout bébé, quand le bébé naît de la maman, on le met sur son corps parce qu'il communique avec elle. Il faut qu'il touche la maman. C'est une question de survie. Quand il est dans le ventre, il capte tout. même les sons. J'aime parce qu'il y a des fois des musiciennes, ils jouent de la guitare, et l'enfant, quand il naît après, il aime la musique. Il est tellement pris, il a communiqué avec sa maman. On a besoin de communiquer avec le Saint-Esprit de la même façon. Le Saint-Esprit nous communique ce que le Père et le Fils disent aujourd'hui, à la minute actuelle. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est très important, hein? Tout à l'heure, on a été en promenade, j'ai vu le pont du Gard. On dit comme ça, hein? Le pont du Gard. C'est la première fois que je le vois. Et il m'a fait visiter le pont du Gard. C'est une œuvre magnifique, hein? Eh bien, c'est vrai, j'ai vu plein de monde. Il a dû se poser des questions. Il dit, est-ce qu'il aura peut-être quelque chose pour quelqu'un? Je ne sais pas s'il a dû penser ça. C'est vrai, Dieu me parlait par rapport aux gens, je n'ai rien fait, mais j'ai écouté autre chose de Dieu. C'est par rapport à ce pont. Et juste, j'arrête entre deux là, ce que je vous enseigne, c'est comme ça un prophète. Hein. Voilà. En fait, le pont du Gard m'a parlé beaucoup tout à l'heure. Et ça pénétrait dans ma tête et j'entendais une chose de ce que Dieu veut dire pour cette région. Et le pont, on voit qu'il s'arrête à un moment donné. Fini. C'est juste une petite partie. Avant, il m'a expliqué que ça faisait 40 kilomètres. C'est ça? Et qu'il a mené l'eau pour Nîmes. Donc, il a mené l'eau. Et je dis, mais c'est drôle, parce qu'il ne reste qu'un petit bout. Tout le reste est tombé. Et je crois que Dieu me montrait que dans cette région, il veut racheter ce qui a été détruit dans le passé et reconstruire. Alors c'était une image, bien sûr, ce pont. Je ne dis pas il va être reconstruit ce pont, mais au niveau spirituel, c'est la même chose. Il y a eu un dépôt de Dieu ici, et Dieu me parlait comme ça tout à l'heure. Et puis, il disait, mais regarde, ce dépôt par toutes les habitudes de tous les gens, il a fini par s'écrouler. Et puis les gens sont devenus très traditionnels, on a utilisé à toute fin tout ce qu'ils avaient reçu de Dieu, ça s'est atténué par la religion, puis plus rien. Mais Dieu dit, les pierres crieront encore. Elles, si les hommes se taisent, les pierres crieront. Et ici, il y a les pierres, et moi je les entendais là-bas, vous avez dit, Hervé, il est malade, je vous assure. J'entendais, et c'est pour ça que ça m'était difficile de voir les gens, je voulais, puis en même temps je ne pouvais pas, c'est terrible quand c'est comme ça, hein, le dilemme entre les choses, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux Seigneur? Et puis j'entendais les pierres qui disaient, voilà, tout ce qui est arrivé dans cette région de bénédiction, et tout ce qui va se passer dans les temps qui vont revenir, il va reconstruire pierre sur pierre, un peu comme le temple. Il va rebâtir, et moi, je voyais tous ces groupes, tous ces endroits qui étaient devenus déserts à cause de cette religion, va reprendre vie. Et pour moi, c'est les temps, dans ces 10 ans-là, je donne une date, c'est approximatif, hein, parce qu'on ne peut pas avoir de date exacte dans tout ce que Dieu dit, heureusement. Mais je sens, et je dis ça dans les 10 ans dans le sens, que dans cette décennie, dans cette période-là, il va y avoir plein de choses qui vont revivre par lieu. Et vous allez être étonnés de ces groupes. Alors, bien sûr, au début, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais c'est l'esprit qui est en train de réveiller. Il remet à la vie. Et il met des hommes, des femmes, là, parce qu'il a envie de pouvoir faire bouger les choses et racheter tout ce que Satan a volé. Et pour moi, le pont m'a parlé comme ça, les pierres m'ont parlé, et j'entendais la voix de Dieu qui dit, regarde, je vais redonner vie à ce qui a été détruit. Et je crois que c'est vrai, les années ont pu détruire beaucoup de choses, mais Dieu redonne vie, même aux ossements desséchés. Et il dit, prophétise, fils de l'homme, prophétie sur ces eaux et ils revivront. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont intercédé pour retrouver. Et c'était comme prophétique. Quand vous priez pour que la gloire de Dieu revienne, moi je crois que c'est une réponse à toutes ces multitudes de prières qui ont été faites. C'est comme si vous avez pris une pierre et vous avez remis une pierre en place. Si chaque personne remet une pierre, on rebâtit l'édifice, n'est-ce pas, en quelque temps. Et je crois que Dieu est en train de faire ça. Voilà, collaborer, c'est un peu ça. Je travaillais avec lui en écoutant ce que l'esprit me disait. Et l'esprit pouvait parler pour d'autres personnes, mais c'était ça qui était le plus important. Arriver à savoir l'écouter, ce qu'il veut pour le moment précis. Ça, c'est important. Donc, communiquer, c'est important. Dans le dictionnaire français, je reviens à mon truc, c'est être en complète union d'idées et de sentiments, ça veut dire communier. Être en complète union d'idées et de sentiments. Une communication téléphonique vous met en relation même avec les gens à l'autre bout du monde. Quand je lui ai téléphoné, il était à Malte, et c'est comme s'il était à côté de moi. C'est extraordinaire. Et je dis, mais c'est vrai, on peut être en communication et me raconter ce qui allait se faire. Et je dis, c'est ça que Dieu veut. Il nous met en communication avec lui pour savoir qu'est-ce que tu vas faire demain, comment ça va procéder. Dieu veut parler. Dieu veut communiquer entre nous, mais aussi avec lui. Je crois que communiquer avec le Saint-Esprit, c'est une question de survie spirituelle. Si tu n'as plus cette communion qui est coupée, tu mourras. Alors tu vas dire, mais ça veut dire quoi? Je crois que Dieu veut nous diriger et nous amener là où il veut. Je crois que la mesure de notre foi est directement proportionnelle à notre communion avec le Saint-Esprit. Plus tu auras une communion avec l'Esprit, plus ta foi va être grande à déplacer les montagnes. Quand il dit, celui qui prophétise, prophétise en proportion de la foi qu'il a eue. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que plus tu communiqueras et tu entendras Dieu, plus ta foi va grandir. Moi, je crois que c'est important. Et avec le Saint-Esprit, il y a une relation, il peut agir avec nous de façon complètement différente, sur différents points. La prière, j'ai entendu qu'il y a des gens qui sont pour la prière, c'est toi. C'est ça, il y en a d'autres ici certainement. Mais la prière, on peut prier, béni, 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 on fait un peu les bénis-moi, ou béninois, je ne sais pas, comme les Africains, mais ce n'est pas ça. Et c'est vrai que souvent, on a des tas de chapelets à réciter, hein. On en a des données à dire dans la prière. Mais je ne crois pas que Dieu veut qu'on prie comme ça. Même si c'est bien, on a des sujets de prière. Mais je crois que le Saint-Esprit veut nous montrer comment prier et pour qui prier à ce moment précis. Je vous raconte une histoire, c'était à Carcassonne. Je ne suis pas souvent là, je vous l'ai dit, mais voilà, c'était une réunion de prière, et l'ancien qui est là, quand je suis là, il me file les réunions de prière. Il dit, oh, Hervé, t'es là en semaine, tu peux faire la réunion de prière. Alors j'ai dit, oui, d'accord. Puis, je devais faire la réunion de prière, la présider un petit peu. Mais en fait, les gens, ils avaient déjà tout programmé. Alors moi, qui ne venais pas souvent, j'allais commencer à parler, mais tout le monde avait déjà fait des plans. Je dis, ça alors? Je dis, comment je peux intervenir? Alors je dis, là, c'est bizarre. Bon, je dis, après tout, c'est peut-être comme ça que Dieu veut, je veux respecter ce qu'ils font. Puis chacun commence à citer tous les problèmes, toutes les situations, pour une telle, pour un tel. Puis à un moment donné, je n'arrivais pas à accrocher. Je dis, mais Seigneur, où tu es? Je dis, je ne sais pas si tu entends tout ce qu'ils disent, mais où tu es? Alors je critique surtout pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient ça pour le bien dans leur cœur. Puis d'un seul coup, Dieu me montre la Syrie. Et c'était les premiers combats pour la Syrie quand ils ont tiré sur les foules. Tout début, on ne savait rien de ça. Et d'un seul coup, je vois la Syrie, et moi j'avais complètement déconnecté d'eux. Pour un dirigeant, c'était pas très... Et puis, j'écoutais ce que Dieu me disait. Et il me dit, dis-leur d'arrêter, je veux que tu les fasses prier pour la Syrie. Je dis, Seigneur, ils sont tellement en route, comment je vais faire? Et c'est comme si je jetais un pavé dans la mare. Alors, d'un seul coup, les gens, je disais, il faut s'arrêter gentiment. Ils continuaient tous. Stop! Je dis, poum! Alors là, ça fait un froid glacial dans toute le groupe, les pauvres. Et puis, d'un seul coup, je dis, écoutez, arrêtez. Je crois que Dieu veut qu'on prie pour quelque chose d'autre. La Syrie, c'est important aujourd'hui. C'est sur le cœur de Dieu pour nous. Donc il faut le faire. Et je leur explique ce que j'ai vu. Et je voyais le combat qui tirait sur les foules, alors que ce n'était pas encore passé et divulgué à la radio ni rien. Alors je le dis, Et puis les gens, j'étais froid au début. Je dis, écoutez, on va prier en langue, puis après on va laisser le Saint-Esprit. Parce que les gens étaient déconnectés, on prend des habitudes qui sont mauvaises. C'est vrai, on retourne toujours dans nos ornières de vieilles habitudes. Alors, je dis, il faut faire ce que l'Esprit nous dit. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à prier, l'onction est descendue. J'ai jamais vu une prière aussi forte. La puissance, quand il commençait, les gens voyaient toutes les choses. Et moi, je pouvais dire, c'est vrai, je l'avais vu avant, alors je les encourageais. Je dis, oui, il faut continuer, il faut continuer. Et puis, Dieu agissait. Donc, Dieu, au travers de la prière, il faut nous apprendre à écouter qu'est-ce que l'Esprit dit à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier pour un tel et un tel. Je ne fais pas de critique. Mais apprendre à écouter Dieu pour les moments très précis, ça peut changer toute la face. Si c'est d'un seul coup pour quelqu'un de l'Église qui est important parce qu'il est en danger et que Dieu nous le révèle, mais ça vaut la peine. On prie et puis Dieu va le sortir de là. Être prêt à intercéder. Je crois que Dieu veut que l'on prie avec le Saint-Esprit dans cette relation. Il est dit en 1 Corinthiens 14, 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit les mystères. » Dans la prière, on peut prier en langue aussi. C'est-à-dire qu'il y a la prière en langue qui intercède en faveur de certaines choses. Quand on ne sait plus quoi prier, on va prier en langue. En tout cas, je sais que ça marche. Et Dieu intervient, c'est directement en relation. Il est dit, 1 Corinthiens 14, 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » C'est clair. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue aussi dans la prière, si vous acceptez. C'était en 1991, ouais, c'était pas hier, hein, mais il m'en arrivait d'autres depuis, mais en 1991, et j'étais en train de faire une école biblique, là-bas, à Montauban. Et puis, je logeais chez des gens, j'avais quitté ma famille, j'avais laissé ma femme, mes enfants là-haut, moi j'étais à 1000 kilomètres plus bas, c'est très dur ce truc, et puis j'obéis à Dieu, et j'étais en bas, et une famille gentille avec 5 enfants m'a pris chez eux, ils m'ont construit une chambre haute, là-haut, dans le grenier, et puis avec douche et tout, ils ont vraiment fait, c'est bien. Puis j'étais pas dépaysé, j'avais des enfants, le matin ils étaient terribles, ou le midi ils mettaient la main dans le truc, ils m'en mettaient partout, voilà, j'étais pas dépaysé, voilà, et puis c'était la vie comme ça, et puis je faisais l'école, mais moi j'étais déjà pas tout jeune, donc tous les soirs j'avais déjà noté tout ce qu'on m'avait enseigné, et le soir je recopiais ce que j'avais écrit pour pouvoir mieux le retenir. C'est terrible, quand on arrive à un certain âge, on oublie, puis moi j'ai une cervelle petite, hein, donc c'est pas facile, et je voulais y arriver. Je voulais. Donc, je faisais ça. Puis, une nuit, un soir, j'étais crevé. Mais alors, vraiment fatigué. Alors, j'ai dit, Seigneur, écoute, j'en peux plus. Je peux plus. Il faut que je dorme. Je suis complètement épuisé. Alors, je me couche et je dors. Mais alors, tout de suite, quand dans la nuit, d'un seul coup, j'entends... Je me réveille. Je dis, c'est pas possible. Qui est-ce qui fait du bruit comme ça? J'ai envie de dormir. Alors, je dis, Seigneur... Fais-les arrêter, je prie comme ça moi, je me retourne, je redors, de nouveau le bruit, je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bruit, je veux dormir, je suis fatigué Seigneur. Et puis, au bout d'un moment de lutte, j'entends Dieu qui me dit, Hervé, lève-toi et prie. Je dis mais Seigneur, je suis fatigué, mais Dieu avait décidé autrement pour moi, donc voilà, il faut se soumettre à lui, donc je me lève, mais prier pourquoi? Alors le bruit, ça ne veut rien dire. Vous n'entendez que ça, c'est toutes les données que j'avais. J'avais même regardé au-dessus à la fenêtre, c'était un vasistas, là, les fenêtres qu'on a dans les toits, et je regardais si ce n'était pas des gens dehors, si ce n'était pas un avion, il n'y avait rien, c'était calme dehors. C'était juste moi qui entendais ça. Alors j'ai dit, mais c'est terrible. Alors je me mets à prier en langue. Je priais, quand d'un seul coup, Dieu a saisi mon esprit. Et je me suis retrouvé transporté tout en étant bien assis à ma place. Je n'ai pas fait un voyage astral, n'ayez pas peur. Je me suis retrouvé en esprit au-dessus d'un pays. Et je voyais des gros avions qui bombardaient. Les gros avions, ce bruit-là. Et je voyais les gros avions qui bombardaient. Puis des gens en bas qui criaient, « Au secours, Dieu, au secours !» Et je voyais les gens, « On va mourir, viens à notre secours !» Alors moi, voyant ça, je commence à prier au nom de Jésus. Je priais, je dis, Seigneur, fais grâce, mets ta main, je priais, puis je priais en langue, je mélangeais tout, mais je priais, heureusement Dieu il fait le tri, et je priais pour ça, et puis après, d'un seul coup, fini. Et là, je suis fatigué, il y en a beaucoup qui n'auraient pas dormi après, je suis parti me recoucher, j'ai redormi. Et le lendemain matin, je descends, et l'homme chez qui j'étais était professeur de mathématiques dans les niveaux supérieurs, puis il faisait des préparations le matin très tôt. Alors, il me voit, il dit, Hervé, t'as bien dormi? Oh, je dis, non. Toute la nuit, je dis, j'ai fait des trucs bizarres. Je dis, j'ai prié et je raconte mon histoire. Et lui devient blanc. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, on en parle à la radio ce matin, à 6h du matin. Je dis, ah bon? Je dis, qu'est-ce que c'était? Ben, il dit, voilà, cette nuit, à quelle heure d'abord, il me demande? Je dis, il était minuit. Et il dit, à minuit pile, les Américains tiraient sur l'Irak pour bombarder l'Irak. Et il dit, tu racontes l'histoire qui s'est passée? Il dit, t'as pas de radio, t'as rien, mais t'as la radio en direct, toi. Alors, il était même marrant, mais en même temps, et j'avais intercédé. Bon, ça, c'est bien, mais j'avais aucun résultat autre. C'est vrai, c'est déjà pas mal. J'avais une preuve que j'avais prié au moins pour quelque chose qui était vrai. Puis, 10 ans après, pour vous montrer comment Dieu il est dans nos prières, 10 ans après, je me retrouve dans une église. Je ne suis plus jamais retourné dans cette église. C'est une église baptiste, non charismatique, c'était fou. Mais je ne suis pas retourné, je ne sais pas pourquoi. Et là, je commence à raconter mon histoire. Puis, le pasteur, il faisait ça, comme s'il lui faisait par là. Puis, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, quand vous parlez, quelqu'un fait ça, dites, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde dans la direction du doigt, puis je voyais les gens, ils faisaient ça. Je dis, mais qu'est-ce? Alors, je dis, écoutez, racontez-moi ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et les deux personnes se lèvent. Et au moment où ils se lèvent, je revois toute la scène. En fait, c'était les deux Kurdes qui étaient en Irak, qui criaient, et j'ai reconnu leur visage. Et c'était eux qui étaient dans cette église-là, venus par hasard, dans cette église-là, et pour qui j'avais intercédé. Il y en avait d'autres, mais c'était deux de ceux-là. Quand j'ai raconté mon histoire, ils pleuraient, ils étaient dans des états incroyables, et quand j'ai vu leur visage, c'est moi qui s'est mis à pleurer après. Je dis, oh Seigneur, alors là, tu me fais des coups, hein. Je dis, c'est extraordinaire. On se demande, mais est-ce que le Saint-Esprit peut aller jusqu'à... Oui, il veut nous communiquer, il veut nous utiliser, et il veut nous montrer combien la bénédiction aussi a été superbe. Donc ça, c'est l'intercession. On prie, mais il y a du résultat. Vous comprenez cela? Et je crois que Dieu veut nous apprendre à cela. Donc la prière est d'une grande efficacité. Le Saint-Esprit nous montre, nous inspire de différentes façons pour la prière. Des choses très précises. Je vous en raconte une autre encore? Voilà, c'est encore une autre. Et là, je travaillais après mon école. Je suis revenu là-bas pour des raisons XY, là-bas dans le sud. Et puis, c'était Philippe Jouret, m'a demandé de travailler avec lui. Donc j'ai travaillé 2 ans et demi avec Philippe Jouret à Montauban, j'ai enseigné dans l'école qu'il avait après, puis un jour j'étais dehors et je priais Dieu dans la forêt, je ne sais pas si vous connaissez la forêt de Montaigne, c'est tout près de Montauban, et j'étais dans cette forêt et j'ai mis à aller prier là-bas. Il y avait des biches, il y avait tout ça, et les biches venaient à côté de moi, je priais, elles étaient là, comme vous êtes là, j'étais tellement content à chaque fois, alors c'est comme si elles m'avaient adopté. Et moi je priais là, quand d'un seul coup, en train de prier, je tendais les mains et je sens un poids se peser sur mes mains. Je dis, mais c'est... Et c'était lourd. Et je me mets à prier. Dieu dit, prie. Il y a des gens, c'était un avion, qui des gens qui allaient mourir. L'avion allait se cracher. Et je vois, alors je tends les mains et je sentais le poids. Et je prie, je dis, Seigneur, fais grâce. Et je sentais, et je descendais comme ça, et j'ai posé la chose comme ça, et après c'était fini. J'avais fini de prier, alors après j'ai reloué Dieu, je suis un peu comme ça, moi vite je passe après, je ne suis pas choqué des choses, je m'en vais après sur autre chose. Et puis, 10 ans après, la même chose qui m'arrivait, je vais dans une église, et ils faisaient ça dans un hôtel, une grande réunion, et puis, voilà, il y avait beaucoup de monde, et moi je dis, oh là là, je ne veux surtout pas parler aux gens, parce qu'après, ils vont me dire des tas de choses, je ne pourrais plus prophétiser sur eux, parce qu'ils vont me raconter toute leur vie. Puis je voyais un homme qui était très bavard, alors très bavard. Puis j'ai dit, ah, surtout pas lui, Seigneur, et je m'en vais dans les toilettes, j'attends que tout le monde rentre. C'est spirituel aussi, les toilettes. On est bien aussi là. Parce que personne ne nous dérange. C'était fermé à clé, closet, fermé. Et puis, j'étais là, et puis je dis, je vais sortir, il va quand même être l'heure. Ils sont en train de louer, sur qui je tombe? Sur le gars. Je dis, oh non, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, maintenant, il va pas arrêter de me parler, je pourrais plus rentrer. Et alors, le gars me raconte, et il me dit, oh, vous savez, il avait deux enfants là, il dit, oh, j'ai une famille de moi, c'est vos enfants. Je lui dis, parlez pour ne rien dire quelque part. Puis il me dit, oui, mais c'est pas que là, j'en ai 11 ou 12, je sais plus combien. Il m'a dit, oh là là, dit, vous avez bien travaillé. Je lui fais, mais c'est des trucs que, bon, voilà, moi, c'était pas intéressant pour moi. Et puis, il me dit, voilà, mais oh, ces deux-là, c'est les deux dernières en fait, c'est pas tous nos enfants, c'est des enfants qu'on a adoptés. Voilà, il commençait à monter dans mon estime. Je dis, ouais, quel homme, quand même, il a pris tous ses enfants, il en avait deux ou trois à lui, c'est tout. Tout le reste, c'est des enfants qu'il a pris, qu'il a adoptés, qui s'est occupé. Il dit, voilà, il y a deux filles là, il venait de je ne sais plus quel pays. Puis il dit, c'est des jumelles, et puis je vais vous raconter l'histoire. Il dit, voilà, il y a à peu près 10 ans de cela, on était en avion. Ma femme, moi, puis plein d'autres gens, quand d'un seul coup le pilote dit, voilà, l'avion va se crasher, si vous avez un pasteur, s'il y a des prêtres, vous pouvez aller les voir dans le truc. Lui, il était évangélique, il était tout fier parce qu'il voulait tellement être un pasteur dans sa vie. Donc, il s'est profité pour parler à tout le monde de Jésus. Et puis, mais sa femme était très malheureuse. Elle dit, tous nos enfants, ils sont restés là-bas. On en ramène deux. Seigneur, pourquoi tu nous les as donnés? Si tu nous reprends maintenant. Et il dit, c'est terrible, terrible, terrible. Et puis, il raconte tout ça. Et moi, pendant qu'il racontait, je commence à être visité par Dieu. Et je commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il se demandait quoi? Parce qu'il racontait ça décontracté. Et puis, il me dit, et à un moment donné, ma femme, ben voilà, elle priait parce qu'elle comprenait pas. Puis elle a vu deux mains qui portaient l'aile de chaque côté. Et elle dit, l'avion s'est posé au droit et c'est impossible. Humainement. Il s'est posé au droit. Comme ça. C'est des hélicoptères qui se posent comme ça. C'est jamais un avion. Et il s'est posé au droit et tout le monde a été sauvé. Mais il y a eu plein de gens qui ont donné leur vie à Jésus dans le bio, les hôtesses et tout ça. Et puis, quand il a raconté tout ça, il me dit, je vous assure, je vous dis la vérité, mais moi, je revoyais la scène des deux mains, je portais l'avion et puis elle, elle arrive, elle dit, voilà ma femme, elle va vous dire la vérité, vous allez voir. Mais moi, j'étais déjà au courant de Dieu que c'était ça. Et elle, quand elle m'a vu, elle a même pas parlé. Et au moment où elle m'a vu, elle a fondu en larmes, vous êtes le monsieur de notre prière. Je dis, mais ça alors, je dis, une sensibilité, ça me fait encore des frissons, des trucs. Et puis, cette femme, elle a pleuré, elle dit, mais vous êtes le monsieur pour, vous êtes attaché à nous qu'elle me fait. Je dis, non. Et elle dit, si. Et alors, elle, sans rien dire, elle a pas entendu la conversation. Et en fait, elle a vu, à un moment donné, elle disait, quand elle priait, c'est comme deux mains qui portaient l'avion. Elle dit, oh Seigneur, c'est deux anges qui portent l'avion. Et puis moi, à je sais pas combien de kilomètres, je priais et j'ai posé, en fait c'était mes mains, je sais pas, non. C'était très spirituel ce que l'on vivait. Et je crois qu'elle a été sauvée parce que Dieu cherche des intercesseurs en esprit, en vérité. Des hommes et des femmes qui sont prêts à obéir à Dieu pour faire des choses très spéciales. Moi, ça m'a coupé ma louange, mais n'empêche, ça valait le coup, parce que j'aime louer Dieu dans les champs, dans la nature, et là, j'ai dit, oh, je chante des fois pas très juste, mais il y a un filtre, hein, alors ça va, mais c'est mon cœur qui chante, et puis je suis tellement heureux avec Dieu, mais là, il m'a arrêté, et lui, il avait autre chose, pas plus important, mais très important, intercéder pour un avion. Vous voyez que vous pouvez être utilisé par Dieu pour la prière, dans tous les domaines de votre vie, n'importe quel lieu, n'importe quel endroit, Dieu veut se servir de vous. Vous allez dire, c'est si simple. Oui, c'est très simple. Et c'est à la portée de tous. Tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu ici. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez faire ça et vivre ça. Ça, c'est important. C'est pas très compliqué. Voilà, le Saint-Esprit nous montre les choses, nous inspire pour toutes choses. Une autre truc là. Là, vous allez rire de moi. Un jour, je ne sais pas si vous est jamais arrivé, mais en France, c'est terrible. Tomber en panne de réfrigérateur avec congélateur au-dessus, et un dimanche. Vous imaginez, c'est la catastrophe. Moi, tout de suite, premier coup, j'appelle et j'essaie de savoir un service d'urgence. Vous ne pouvez pas venir, j'ai vu le moteur, il était cramé. Ça sentait la fumée. J'ai dit, il est foutu, quoi. Et j'y connais rien, je suis pas un mauvais bricoleur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et on entend au répondeur, le magasin est fermé, vous rappellerez, mais le lundi après-midi, pas le matin encore, parce que, j'ai dit, mais tout va être perdu, Seigneur. Et j'entends Dieu qui me dit, prie pour ton réfrigérateur. Alors vous allez dire, ça c'est de la folie, mais pourtant, Dieu c'est le Dieu des petites choses comme des grandes choses, du quotidien. Alors j'ai dit à ma femme et mes enfants d'aller jouer en haut. Je ne voulais pas avoir l'air ridicule de prier pour un réfrigérateur. J'ai dit, je vais me faire moquer. Et puis, ils montent, ils m'obéissent. Et puis, je mets mes mains sur le réfrigérateur, je dis, écoute Seigneur, c'est pas juste. J'avais laissé la prise de courant, hein. Je dis, c'est pas normal. Je dis, au nom de Jésus, je veux qu'il redémarre. Maintenant, boum, le moteur se remet en route. Direct. Je dis, ça alors? Il a remarché. Et après, ma femme me dit, qu'est-ce que tu as fait pour le réparer? Oh, je dis, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste prié. Et le réfrigérateur a marché. Je ne suis pas responsable. C'est Dieu qui l'a fait. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui et collaborer avec lui dans des petites choses, dans des grandes choses. Au conservatoire aussi. Vous allez rire là. Si elle était là, Valérie, je ne crois pas qu'elle faisait partie, mais enfin, elle a dû le savoir. Oui, j'étais, après ma conversion, j'étais un gars très spécial. Déjà avant, Hervé devait avoir la solution à tous les problèmes. Donc c'était comme ça qu'on me voyait. On m'appelait partout, Hervé, Hervé, Hervé. Il fallait trouver des solutions. Puis, vous imaginez, le jour d'un examen d'orgue. On a un orgue qui est superbe à là-bas à Amiens. C'est un orgue qui a été fait encore avec des systèmes Mercure. Vous savez, le balancier, ça marche comme ça. Enfin, c'est très vieux. Il est classé aussi, cet orgue. Il fait des gros tubes et il était classé, très vieux. Voilà. Déjà, il tombe en panne la veille. Oh là là là. Hervé, il fallait qu'il trouve une solution. Le jury arrivait le lendemain. Les élèves avaient leur examen. Il fallait que ça marche. J'ai dit, j'appelle les facteurs d'orgue. Impossible, il n'y en a que deux en France pour réparer ces orgues-là. Et personne ne peut y toucher. Ils sont classés. Lui, il est à l'autre bout de la France. Impossible. Je dis, me voilà. Comment je fais? Je dis, voilà, j'ai usé. Alors, j'ai prié, mais j'ai fait par ma force. Vous allez voir. Vous allez voir les différences de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout de suite. Oui, j'ai une idée. Il y a un magasin de musique. Lui, il doit avoir des orgues. Waouh, il faut que j'aille le voir. Et je regarde, oui, un orgue premier, on appelle ça. C'est-à-dire les orgues qu'ils ont préenregistrés et le son de l'orgue, c'est comment dire, comme cela, avec des plaques, je ne sais pas comment on appelle ça, des transistors, enfin je ne sais pas le nom, comment on dit, à l'intérieur. Et vous voyez, je ne suis vraiment pas très connaisseur. Et donc, quand on joue, on a l'impression d'avoir la musique de l'orgue de Notre-Dame à Paris. C'est le même son. C'est aussi beau que ce que j'avais. J'ai dit super, j'étais content. Hop, on le met. Jour de l'examen. Vous imaginez, jury là, l'élève qui commence à jouer là-bas, j'étais bien sûr dans le conservatoire, commence à jouer, rien. Panne. Ah, tout de suite, on court dans les couloirs. Hervé, où tu es? Fallait que je vienne. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'y connais rien du tout. Appeler un technicien, c'était trop tard. Le jury était là, il fallait que quelque chose se passe. Et j'entends Dieu qui dit, Hervé, prie. Je dis, mais Seigneur, devant tout le monde, je dis, tu vois pas? Hervé, prie. Alors, je ferme les yeux pour pas voir les gens, mais c'était tout cela, devant tout le monde. Seigneur, montre-moi la panne. Ah, alors là, c'était la télévision en couleur. Dieu me montre l'intérieur de l'orgue. Il me montre l'endroit exact, un fil qui avait été débranché. C'est impossible qu'il se débranche. C'est impossible. Il marchait aux répétitions, il marchait avant, c'est impossible. Le mieux de tout, je demande à un élève, je dis, écoute, toi, si tu veux, tu vas m'ouvrir l'orgue, et moi j'ai rien fait, hein. Tu vas ouvrir, et à tel endroit, dans tel endroit, il y a un fil qui est défait. Le gars, il ouvre, il regarde, en effet, le fil était débranché. Il remet, je dis, tu peux jouer. Eux, ils n'y croient pas, donc ils veulent essayer avant de refermer le dos. Donc, ils essaient, ça marche. Donc, ils referment, et l'examen a eu lieu. Mais j'ai prié devant tout le monde, je me suis vraiment exposé. Et après tout ça, j'ai dit, oh là là, là, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Il faut que j'aille voir un technicien. Je suis allé voir un technicien, et je lui dis, si un orgue comme ça tombe en panne, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il dit, la première des choses, on va tester toute la carte là, dessus, je ne sais pas comment on l'appelle, avec tous les points de soudure là, tout ça. On regarde, ça n'a pas un point de soudure qui est sauté. On va tout tester et ça va durer des heures. Mais jamais, jamais, ce fil-là ne se débranche. C'est impossible. Jamais. C'est la dernière des choses que j'aurais regardé. Alors j'ai dit, toi, Seigneur, c'est vraiment toi. Là, tu voulais exposer pour montrer et Dieu a fait. Vous voyez, des choses très pratiques. Du quotidien, Dieu veut nous donner des solutions à toutes choses. Dieu veut nous apprendre à prendre position et à prier par son esprit. Voilà. Le Saint-Esprit aussi, ça va, on est dans les temps. Tu me dis quand c'est l'heure. Il faut finir à quelle heure? Tu me dis une heure, parce que moi, il faut me donner une heure pour que je puisse prendre du temps pour donner les paroles. Je finirai ce soir, la suite. Il va être 6 heures. D'accord. Je finirai le reste tout à l'heure. C'est pas grave, on a le temps, on a encore tout le soir. Mais je voudrais donner les paroles, oui. Il faut arrêter à 6h30? D'accord. Alors, donc, voilà. Je vais essayer. Pour moi, il faut que j'aime me donner des limites à tout, même si on laisse l'esprit dans le cadre de Dieu agir. Hein. Donc, après, l'esprit pleure. Le Saint-Esprit pleure, et je vais finir cette chose-là pour cet après-midi. Dans Éphésiens 4:30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, c'est une histoire que j'ai racontée ce matin. Un jour, c'était une autre histoire encore. Un jour, j'étais là encore à faire la sono comme il fait là-bas, parce que j'avais installé ça, parce que dans l'église où on était, il n'y en avait pas. Et puis, il y a les vieilles dames qui n'entendaient plus. Et comme j'étais régisseur d'un conservateur, ils ont dit, Hervé doit savoir. Donc, est-ce que tu pourrais nous installer la sono? On te donne l'argent. Et les mémés m'ont donné l'argent et je suis allé acheter tout le matériel parce que j'avais des filières, des endroits où je pouvais avoir du matériel moins cher et tout. J'ai installé les câbles sur le toit, j'ai fait des tas de choses. C'était super, après la sono était bien. Puis je faisais la sono en attendant qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Et puis, d'un seul coup, je me mets à pleurer. Mais je pleurais. C'était mouillé au sol, je vous assure. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi je pleure comme ça. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et des gens venaient, oh il est malheureux, oh il est triste, oh on va prier pour lui. Et puis les gens voulaient prier pour moi. Mais je n'étais pas triste, j'étais le plus heureux des hommes. Mais Dieu pleurait pour quelque chose qui est arrivé. Il y avait le péché au milieu de l'église et moi je ne le savais même pas. Et Dieu était attristé. Dieu était attristé, Saint-Esprit pleurait. Et Dieu se servit de moi avec mes larmes humaines pour pleurer sur quelque chose. Quand on regarde dans la Bible, il y a beaucoup qui ont intercédé avec larmes, avec cris. Et je sentais que l'Esprit voulait me montrer qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ça m'est arrivé pour une personne, ça m'est arrivé pour des pays, de pleurer pour des pays, par rapport à ce qui se produisait. Dieu a pleuré, et je pleurais réellement. Et c'était une intercession, peut-être avec des larmes. Je ne comprenais pas tout. On ne comprend pas tout, mais Dieu se sert de nous. Et ce qu'il faut, c'est être malléable entre ses mains. Donc, on peut pleurer aussi. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Vous vous rappelez de cela? Et il savait pourtant qu'il allait le ressusciter, mais il a pleuré. Il était attristé de ce que les gens étaient malheureux et de comment ils voyaient la mort comme quelque chose de fini. Et lui voulait faire passer un message. Et il pleurait. C'est l'esprit qui était en lui qui le faisait pleurer. Donc je crois que c'est très biblique aussi ces choses-là. Et devant le tombeau de Lazare, donc il a pleuré. Pourtant, il savait qu'il allait le ressusciter. Et ça m'est arrivé tellement de fois. Ça, je vais vous raconter une histoire aussi. Je finirai avec celle-là. Alors, c'était en France. Parce qu'il y en a, ils croient toujours que c'est qu'à l'étranger, mais c'était en France. Je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est un grand rassemblement avec Reynard Bonquet, et c'était à Grenoble. C'était en 1987, c'est vieux. Hein. Voilà, et puis, voilà, moi, Reynard Bonquet, vous savez, on a des gens comme ça qui peuvent être des modèles pour nous. Moi, je suis comme ça, j'en avais plusieurs. J'avais Reynard Bonquet en tant qu'évangéliste, parce que je dis, c'est un homme passionné, il voyait des miracles, des guérisons, des conversions. Waouh, j'étais en admiration, dire, oh, qu'est-ce que je voudrais ressembler à cet homme? C'était un modèle pour moi. Hein. Et puis, d'ailleurs, il s'est converti au travers d'une élève aussi, lui. Hein. Il était professeur, comme moi, il y en a même passage. Et puis, j'assiste à la réunion, mais incognito, comme tout le monde, quoi. Quand d'un seul coup, Hénarbonquet, en plus, il disait, ouais, ici en France, vous êtes incrédule. En fait, Dieu ne peut pas faire beaucoup de miracles. Je dis, il est vraiment dur avec tout le monde. Moi, j'étais tellement déjà passionné de lui, il me cassait un peu, là. Puis, d'un seul coup, il s'appelle des noms parce qu'il dit, il fait un appel. Donc, ils savent quand Hénarbonquet, n'importe où il est, c'est des foules entières qui viennent pour prier pour eux, pour la guérison. Donc, et ils appellent les gens qui devront l'aider à prier. Et ils disent Hervé Guillois. Je me tourne, je dis, mais qui est-ce qui me connaît ici? Pourquoi on m'appelle? Qu'est-ce qui a voulu m'appeler? Pourquoi? Comment on connaît mon nom? Je me posais plein de questions, mais au moment où ils ont dit ça, puis d'autres, hein, plein d'autres, une onction est venue sur moi, mais très très fort. Les poils de mes bras se dressaient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais rien. Bon, je sors de là où j'étais et je commence à descendre l'escalier. C'est un genre d'amphithéâtre, enfin, ouais, voilà, comme ça, où on est des gradins, là. Et puis, je descends et au fur et à mesure que je descendais, des gens tombaient. Je regarde et je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Et puis moi, je sentais toujours cette puissance de Dieu sur moi. Puis, en cours de chemin, je dis, oh Seigneur, j'aimerais être juste à côté de Hénarbonquet. Il y avait peu de probabilité pour que j'y sois. Avec tous ceux qu'il a appelés, je dis, moi, je peux être carrément à l'autre bout. Je dis, Seigneur, tu veux me faire un cadeau, mets-moi à côté de lui, je veux de son onction. Et puis, on me met à un endroit juste à côté de lui. Oh là là, j'étais le plus heureux des hommes. Je dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Alors, je le regardais faire, puis je faisais comme lui. Je faisais comme lui. Et lui, il priait, ça marchait. Alors j'ai dit, je fais comme lui. Je voulais tellement être lui. Et je priais, et ça marchait aussi. Je dis, ouah, je crois que je bénéficiais de l'onction de Hénarbonquet, mais ça fait rien. En tout cas, ça marchait. Puis, passe la réunion, et à la fin, moi j'étais tellement heureux, j'avais pas envie de manger. Puis Hénarbonquet, tout le monde sont allés manger. Puis moi, je suis resté dans les gradins, avec quelques personnes qui mangeaient des sandwichs, et moi je suis resté, et je louais Dieu, je dis, oh Seigneur, merci, tu m'as fait un cadeau merveilleux, tu es vraiment extraordinaire, tu as entendu mon cœur, tu m'as répondu, bon. Et puis, après, d'un seul coup, quelqu'un arrive, c'est des Africains. Et puis, ils avaient un bébé, et le bébé venait de mourir, la mort du nourrisson, je sais pas. D'un seul coup. Je ne sais pas d'où ils venaient, ils avaient l'habit africain un peu comme les Burkinabés, la même couleur, et puis ils devaient être de par là. Et puis, ils viennent vers moi, et eux m'ont vu à côté d'un banquier, ils croyaient que je faisais partie de l'équipe. Moi, j'étais rien du tout, j'étais juste quelqu'un qui avait juste demandé d'être là, enfin, puis Dieu m'a choisi comme ça. Alors, ils me mettent le bébé dans mes bras, et c'est comme ça, les Africains, pauvres, morts. Oh, mon cœur a fait qu'un bond, j'ai eu un choc. Je regarde, il était réellement mort, sa langue planchée, il était blanc. Je dis, oh, je dis, Seigneur, où il est Hénarbonquet? Je cherchais Hénarbonquet. Et des fois, on réagit comme ça. C'est vrai, hein? On croit que c'est lui et pas d'autre. Et puis, il n'y avait personne. Il n'y avait que moi. Alors, j'avais le bébé dans les bras, je dis, Jésus, je ne sais pas quoi faire. Et puis, je prends le bébé, je lève, je dis, écoute, Seigneur, c'est pas normal qu'il soit mort. Redonne-lui la vie. Écoutez, à ce moment-là, le bébé s'est mis à crier. J'étais surpris. Et alors, j'étais tellement surpris, je me rappellerai, j'ai pris le bébé, j'avais le bébé dans les bras, je l'ai mis dans les bras de la maman, je dis, allez lui donner à manger, je lui ai fait, je n'avais rien trouvé d'autre que ça. Et Dieu a ressuscité le bébé. Première résurrection quand même. Voilà. Le bébé est revenu à la vie. Et après, c'est terrible. Parce qu'ils vont prévenir tous les Africains, et tous les Africains vous courent après. Alors là, moi j'ai fui, et je suis parti. Non, non, j'y suis pour rien, j'avais plus peur que vous tous. Je ne comprenais pas, j'essayais de me justifier que j'étais pas plus de foi qu'eux. Mais c'est juste Dieu qui a voulu montrer que c'est lui qui guérit, et c'est pas nous. Et c'est pas Hénarbonquet, mais c'est le Seigneur. Et je crois que j'ai pris une bonne leçon. Toute ma vie spirituelle, c'était des leçons comme ça, où Dieu voulait m'apprendre. Il me dit, regarde, c'est pas toi, donc tu peux le faire, tu vois. Et Dieu le fait comme ça. Donc voilà, ça c'est encore une autre chose. Oui, il va être 6 heures. Encore une histoire? Allez, une dernière pour la route. Là, c'est en Israël. Vous êtes allés en Israël? Alors ceux qui sont en Israël vont comprendre quelque chose. Je suis allé en Israël juste parce que une grand-mère de l'église, vieille fille, avant de mourir, a dit « Je veux aller en Israël, mais je ne peux pas y aller toute seule. » Et elle est venue me demander « Hervé, tu voudrais venir avec moi ?» Je dis « Oui, mais bon, j'avais ma femme, mes enfants, c'est cher tout ça, c'est pas possible. » Elle dit « Non, non, je te paye tout. » Je regarde. Bon, je dis « Alors, il faut que je voie ma femme quand même, parce que elle ne va certainement pas le payer à tout le monde. » Et ma femme, elle est vraiment super, elle dit « C'est super, il faut que tu y ailles, tu n'auras plus d'occasion comme ça, vas-y. » Bon, alors je dis « Seigneur, là, bon, alors on y va. » Et puis, à un moment donné, j'avais déjà prié d'abord tout le long en prenant la Bible, comme j'aime beaucoup la Bible, je dis « Seigneur, je veux marcher dans les endroits où toi tu allais et lire le texte dans ces endroits où il s'est passé quelque chose. » Piscine de Bethesda et tous ces coins. Et à chaque fois, je lisais les textes. Puis, alors là, vous allez comprendre, il y a un truc très touristique, c'est le bateau de Saint-Pierre, qu'ils disent, ça a été refait. Voilà, voilà, ils comprennent. Donc, tu vois le bateau. Puis, voilà, avant de monter dans le bateau, je lis. Voilà, et Jésus a traversé, une grande tempête a eu lieu. Je ne prête pas attention à ça. Un soleil magnifique, il faisait beau, tout était superbe. Je dis, voilà, j'ai lu le texte, quoi. J'ai dit, je comprends. Oui, mais j'avais rien compris. On monte dans le bateau et le bateau part. Écoutez, une tempête s'est déclenchée. Mais alors, une tempête, je ne sais pas si vous avez déjà été en tempête sur les mers ou sur les lacs. Là, c'était comme des grandes vagues. Le bateau faisait ça, mon estomac remontait à ma gorge, enfin bref, partout. Et j'étais vraiment mal. Et on s'assit tout autour, vous avez fait ça, hein. Et puis, d'un seul coup, j'entends Dieu qui me dit, Hervé, lève-toi et calme la tempête. J'ai fait arrière de moi Satan. Moi, je voulais pas mourir, hein. Et puis, Dieu, de nouveau, Hervé, lève-toi, calme la tempête. Oh, je dis, non, 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 Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas, je vais mourir. Non, non, mais ça bougeait. Et j'entends Dieu, il faut mieux obéir à ta pensée ou à la mienne. Je dis, toi, Seigneur, tu m'aimes? Je dis, oui, je t'aime, Seigneur, mais quand même, voilà, c'était pas les circonstances favorables. C'est facile de prier pour quelqu'un, et même s'il n'est pas guéri, c'est pas grave, mais là, c'était la tempête. Si ça marche pas, je coule. Et alors, donc, je commence à me lever et à marcher. Vous voyez le bateau, et Dieu me dit d'aller à la pointe du bateau. À la pointe. Alors, j'ai dit, oh non, Seigneur. Et j'entends le pilote qui crie en hébreu. Alors, de s'arrêter, la femme qui interprète, qui était là, elle dit, mais asseyez-vous, vous allez mourir, vous allez tomber dans l'eau. Je dis, et j'entends Dieu, il dit, mais Hervé, va à la pointe du bateau, calme la tempête. Oh, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu me fais faire des trucs. Alors, je marche comme ça. Et j'arrive à la pointe du bateau, et ça bougeait. J'ai confessé mes péchés, même ceux que j'avais jamais faits. J'en ai inventé de toutes sortes. J'ai tout cité ce qui pouvait sortir par ma tête pour être en règle. Je me voyais couler, et puis aller dans le gros poisson, là. Je me voyais mourir dans l'eau. J'ai dit, c'est fini. J'avais vraiment la foi toute petite. Et je baisse et je ferme les yeux encore très fort, comme les autruches pour me cacher. Et puis je baisse comme ça, et je me lève, je dis, oh non, Jésus, tempête, calme-toi. Et d'un seul coup, ça bougeait plus. J'ai dit, ça y est, je suis noyé, je suis parti au ciel, je suis mort, j'ouvre un œil. Je dis, ça marche, ça bouge plus. Et là, tout était calmé. Je dis, Seigneur, oh, je dis, ça marche la prière. Je dis, ça alors. Et Dieu m'a montré que oui, avec lui, tout est possible et on peut faire des choses encore plus grandes que lui. Dieu voulait m'apprendre à dépendre de lui totalement, collaborer avec lui. Mais après, encore une fois, il y avait des tziganes, des gitans dans le bateau. Ah là 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 là. Ils étaient fous, ils voulaient me toucher tous. Ils croyaient, je dis, je suis pas Jésus. J'avais peur, moi, de mourir. J'essayais de leur expliquer par A plus B que j'avais pas la foi très grande. Je dis, je ne suis pas Jésus, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Je dis, c'était pour m'apprendre quelque chose, mais c'est pas autre chose. J'arrivais pas à me justifier, vous voulez tous. Sorti du bateau, la dame âgée qui est avec moi, je l'ai pris et je l'ai trimballé, elle s'est tordue la cheville son pied. C'est... Après, elle marchait comme ça. Je dis, oh là 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 là. Et je courais. Puis après, on a mangé les poissons Saint-Pierre. Là, vous avez mangé ces poissons frits, là. Pas manger, c'est bon, hein, ça dépend des personnes qu'ils aiment ou pas. C'est trempé dans la graisse, mais bon, c'est bon quand même. Et puis on mange ces poissons-là. Je suis allé dans un restaurant pour pouvoir être tranquille, quoi. Et puis, après, on rentre le soir et on va dans les hôtels. Vous savez, on fait plusieurs villes et on change d'hôtel. Donc, on va dans un autre hôtel. Et puis, là, je monte, la dame, elle va dans sa chambre. Moi, je vais dans la mienne. Et puis, tous les touristes, ils vont dans leur chambre, partout. Et puis... voilà, je rentre et je dis, je vais pouvoir me reposer, mais je dis, remercier le Seigneur de ce que j'ai vécu dans la journée. Ah là 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 là. Toute la nuit, il n'est pas arrêté de venir des gens dans ma chambre. Les gens, d'abord, au début, cette femme qui est avec moi âgée, elle avait tellement mal, elle dit, prie pour mon pied. Je mets mes mains sur son pied, j'entends, son pied s'est remis. Bon, puis après, il est venu plein de monde. Il y a eu des délivrances, des guérisons dans l'hôtel. Je ne connais pas les gens. Je ne sais pas qui ils sont, d'où ils viennent. Mais tout le monde a passé. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Je savais qu'il y avait des pasteurs sur le même palier. Je suis allé frapper à leur porte. Et j'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas venir m'aider. Il y a trop de monde dans ma chambre. J'arrive plus. J'ai besoin d'autres personnes pour prier avec moi. Le pasteur qui vient, il était non charismatique. Il n'avait jamais fait ça. Mais je ne savais pas. Et alors, il me dit, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il dit, je sais pas, je prie pour les gens. Ils se disent, oui, mais il en vient toujours. Alors, je sais pas d'où ils viennent. Et alors, vous pouvez m'aider? Oui, il prie, mais il dit, ça marche. Mais je dis, oui, c'est normal, c'est Jésus qui le fait, des trucs bizarres. Enfin, bref. Et puis, on a vécu des temps très, très forts. Ça, c'est Israël. J'ai pas chômé. Moi qui venais en tourisme pour regarder, j'ai pas arrêté de faire. Après, au moment du Jourdain pour baptiser, ça a été la même chose. On est venu me chercher alors qu'on ne me connaissait pas. Des jeunes disent, il faut nous baptiser. Mais je dis, vous savez même pas qui je suis. Vous n'allez pas vous faire baptiser par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors il dit, si, si, Dieu nous a montré que c'était vous. Il y en a qui sont très spirituels. Et bien, hop, alors j'ai dit, bon, mais je dis, j'ai rien. J'ai même pas de sûr, je dis rien. Ah, mais il dit, on va vous donner tout ça. Il y a tout ce qu'il faut là. Et puis j'ai baptisé dans le Jourdain. Et au moment où j'ai baptisé, il y a une lumière. Et ça, il y a une photo qui a été prise tellement forte selon nous. C'est vraiment la puissance de l'Esprit. Je dis, mais c'est incroyable, Seigneur. Tu voulais encore me montrer quelque chose pour moi. Comme quoi, c'est possible. Tout ce qui est écrit est la vérité. Et c'est pour ça, ceux qui veulent changer la parole, je dis, arrêtez. Moi, je suis furieux parce que j'ai vu les preuves que c'est la vérité. Et Dieu a agi pour me montrer que la parole était la vérité. Et que, justement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a fait, et ces choses, il les fait encore aujourd'hui. Donc, voilà, 6 heures. Je suis un homme réglo quand même. Voilà, je suis presque suisse. On voit que je vais souvent en Suisse. Hein, c'est tout, tout. Voilà, mais en tout cas, Dieu a agi. Ça, c'est la prière. On verra le reste plus tard. Ce soir, on parlera des affaires avec le Saint-Esprit. Si ça vous va, hein. Sinon, on peut parler d'autre chose. J'ai plein de choses. On est plein mon cartable. J'ai la foi d'amener beaucoup de choses, mais en général, je ne fais qu'un tout petit peu. Je parle tellement. Hein. Voilà. Donc, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer dans tous les sens. Oui, vous pouvez vous lever, ça vous fera du bien. Non, comme vous voulez. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Ça détend les gens. Non? Ah, vous voulez partir? Ah! Là, vous êtes à deux à côté de vous qui vont vous tenir. Hein. C'est parce qu'il y a le rôti dans le four. Non, ça va alors. Ça va alors. C'est monsieur qui attend. Hein? Ah, mais c'est bien, vous allez dire, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Voilà. Il y en a qui vous attendent? Non. Son mari? Oh. Si vous posez des questions, vous prierez pour lui. Voilà. Donc, on va juste prier pour collaborer un peu avec le Saint-Esprit déjà, quelques instants, puis après, je vais donner quelques paroles. Hein. Seigneur, en tout cas, merci pour ta parole, que tu nous montres quelle est la vérité. Merci de ce que tu veux nous faire rentrer dans cette dimension du Saint-Esprit de dépendance avec toi pour voir ta gloire se manifester. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici, pour que tu mettes une onction toute particulière sur eux, pour qu'ils deviennent des instruments entre tes mains de bénédiction pour ceux qui sont à côté d'eux, pour les gens qui sont dans leur travail, pour les gens qui sont auprès d'eux, leurs voisins de maison, pour qu'ils deviennent ces instruments où ils vont être un sujet de bénédiction pour beaucoup, sujet de salut. Je prie vraiment pour que tu oignes chacun et chacune, tu leur donnes de pouvoir agir avec toi, par ton esprit. Seigneur, oilé de ton onction, sers-toi d'eux, manifeste ta gloire au travers d'eux. Montre-leur que tu es vraiment celui qui est Seigneur et que tu as tout entre tes mains et que quoi qu'il se passe, toi, tu peux changer des situations. Merci Seigneur. Amen.